Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour cet autre numéro du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane, heureux de vous retrouver.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Heureux de retrouver également les auditeurs et auditrices.
Je sens d'ici, à travers votre voix, que c'est la grande forme.
Ben écoutez, c'est la grande forme parce que c'est le débat.
Et surtout, j'espère que nous partageons avec nos auditeurs cette grande forme, cette pêche, Francis Laloupo.
On l'espère en tout cas.
Où en est la... Voilà, tout à fait. Où en est la classe politique sénégalaise à 3 mois de la présidentielle? La pression et la tension sont fortes. Chaque camp se mobilise. Les intentions des candidatures se multiplient. L'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, et Karim Wad n'ont pas tout à fait renoncé à se présenter. Alors, la position du Comité des droits de l'homme de l'ONU sur le cas Karim Wad a-t-elle ou va-t-elle redonner espoir au fils de l'ex-président Abdoulaye Wad? Nous en débattrons. L'Union africaine a-t-elle jeté un pavé dans la mare en annonçant l'envoi à Libreville d'une mission d'information? En tout cas, les autorités gabonaises ont qualifié d'étonnamment inhabituel les voies par lesquelles elles ont appris l'annonce. L'organisation continentale, qui a réaffirmé son attachement au respect de l'ordre constitutionnel, faisait-elle référence au rajout, plutôt par la Cour constitutionnelle, d'un alinéa à la Constitution pour, dit-elle, pallier l'absence du président Bongo malade? L'opposition et une partie de la société civile accusent la Cour constitutionnelle d'avoir opéré, je cite, un coup de force. L'Union africaine, il en sera également question dans le dernier sujet. L'UEA qui a adopté des réformes, dont une qui met plus de pression sur ceux des États membres qui traînent les pieds à s'acquitter de leurs contributions. Aujourd'hui, nous avons lancé la commission de l'UEA sur une trajectoire plus performante, a affirmé Paul Kagame, président en exercice de l'organisation. Mais quelles sont les chances de mise en œuvre de ces réformes, dont certains points ont été invalidés par les États membres? Analyse dans un instant. Le temps pour nous, Francis, de savoir qui est notre invité cette semaine.
Oui, notre grand témoin invité dans cette édition, il est avec vous à Dakar, dans l'Institut BBC Afrique, Moustapha Mamba Guirassy, ancien ministre du Sénégal, président du Parti Sénégalais Uni pour le Développement. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
On peut également ajouter que vous êtes candidat à la présidentielle de 2019 au Sénégal.
Tout à fait, candidat à la présidentielle 2019, président fondateur aussi de l'Institut africain de management.
C'est ça.
Et député à l'Assemblée nationale, ancien maire, ancien député aussi, ancien ministre.
Ah, écoutez, vous faites tout à ma place parce que j'allais vous présenter dans quelques instants.
Bon, très bien.
Voilà. Notre confrère invité, en tout cas dans cette édition, depuis Libreville au téléphone, Guy-Pierre Bitégué, directeur de la publication du journal Lumbanja, président de l'organisation patronale des médias LOPAM. Guy-Pierre Bitégué, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Petite fiche de présentation à présent de notre grand témoin invité, Moustapha Mamba Guirassy. Vous êtes né en 1965. Hein. Vous avez obtenu un diplôme d'ingénieur en génie électrique en 1989 à l'Université du Québec de Chicoutimi, au Canada. 2 ans plus tard, vous obtenez un autre diplôme en administration des affaires, plus précisément en gestion internationale des affaires. Vous êtes le fondateur d'instituts spécialisés en management et administration des affaires, vous l'avez dit il y a quelques instants. Vous avez été maire et député de la ville de Kédougou. Vous avez occupé également la fonction de ministre de la communication, des télécommunications et des TIC, porte-parole du gouvernement de 2009 à 2012. Et vous êtes actuellement le président du Parti sénégalais Uni pour le Développement et donc candidat à l'élection présidentielle de 2019 au Sénégal. Moustapha Mamba Guirassy, vous serez donc notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. À vous Liliane, Dakar.
Oui, Francis, merci beaucoup et signalons qu'il s'agit de candidat déclaré, puisque vous n'avez pas la réception des dossiers n'a pas encore été ouverte, donc vous êtes candidat déclaré. C'est bien cela, Monsieur Guirassy?
Oui, comme on dit ici, candidat à la candidature.
Candidat à la candidature.
Voilà, bon, Francis.
En tout cas, l'intention est déclarée.
L'intention est déclarée, les actions sont là aussi.
Voilà. Oui. L'opposition sénégalaise se cherche donc toujours un leader. Pour l'instant, ils sont des dizaines à avoir déclaré, comme vous, M. Guirassy, leur intention de se porter candidat à la présidentielle du 24 février prochain. Ce sera le premier tour. M. Guirassy, au moins 80 candidats déclarés à la présidentielle à la date de fin août 2018. Ça, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Cela fait trop, font observer certains de vos compatriotes. Certains affirment même que l'impression qu'on a, c'est que chaque Sénégalais veut devenir président de la République. Que répondez-vous à ce type de remarques? Vous les avez entendues, sans doute.
Oui, ce sont des observations qui ont été organisées, qui sont généralement portées par le régime en place. Il fallait légitimer cette loi qui est passée donc par force à l'Assemblée nationale, la loi sur le parrainage, tentant de rationaliser les candidatures. Et comment le légitimer? C'est justement de dire après aux Sénégalais qu'il y a 80 ou 100 candidats ou candidatures donc déclarées. Mais en réalité, on sait ce qui s'est passé durant les législatives, on sait aussi ce qui se passe. Il suffit simplement de commanditer ou de mettre en avant certaines personnes ou certains Sénégalais pour leur dire déclarez-vous comme candidat ou candidat à la candidature et après présenter à l'opinion 80 ou une centaine.
Vous êtes en train
après
de dire que ce sont... c'est le pouvoir qui...
Ah oui, derrière tout cela, pour justement légitimer, dire pourquoi...
Qui pousse les gens à aller se déclarer candidat.
Ben oui, parce que pourquoi subitement le Sénégal n'a jamais compté 80 candidats ou 100 candidats, je crois que c'est pas raisonnable. Pourquoi subitement, suite donc à ce vote-là, donc la loi sur le parrainage, on voit 80 ou 100 candidats.
Excusez-moi, M. Guirassy, avant cela, il y a eu des listes très nombreuses pour les législatives.
Ça, il y en avait combien, dites-moi?
45, je pense.
Alors, 45. Dites-moi, oui. Les législatives passées, il y en avait autant. Mais quand on est allé justement en présidentiel, on tournait autour de 12. Alors, quand...
Mais les législatives précèdent l'adoption de cette loi dont vous parlez.
Je veux dire, l'élection présidentielle avant et celle donc législative d'avant, donc il y a 5 ans ou 6 ans, on avait effectivement le même nombre lorsqu'on parle donc de législative, mais en parlant maintenant de présidentielle, on tourne toujours. On va de 27 ou de 30 et on se retrouve autour d'une dizaine donc de candidatures. Et après, il y a des coalitions et on retrouve des nombres donc beaucoup plus raisonnables. Mais tout d'un coup, dans l'histoire politique du Sénégal, qu'on se retrouve avec 80 ou 100, ce qui l'explique, il n'y a pas une autre explication, il n'y en a pas deux. C'est simplement la création ou le forcing de cette loi-là sur le parrainage. Et justement, pour légitimer et montrer aux Sénégalais, à l'opinion nationale et internationale, qu'ils avaient raison de faire ce...
L'inflation de candidatures déclarées est le fait du pouvoir.
Ah oui, absolument, c'est du bluff. Tout cela derrière donc cette loi-là sur le parrainage, on a tout simplement voulu éliminer des candidats, soi-disant, et puis avec le prétexte donc de rationaliser. Mais la seule rationalité derrière, c'est l'élimination de candidats sérieux. Et la preuve, certainement, on en reviendra, l'histoire de Karim Ouad, l'histoire de Khalifa Sall, et aujourd'hui, donc, certains candidats qui passeront aussi à la guillotine. Parce que eux, ils ont les moyens de dire qui a le nombre requis ou pas. Nous ne sommes pas présents, nous n'avons aucun moyen de contrôler. Sur le fichier électoral, on dit il y a un ratio par rapport à un fichier électoral. Or, ce ratio par rapport à la chose même du fichier électoral, on ne s'entend pas. Jusqu'ici, on ne touche pas le fichier, on ne peut pas l'auditer. Mais vous voyez en fait que c'est une grosse nébuleuse et qui débouchera tout droit vers des contentieux ou sur des contentieux électoraux extraordinairement graves.
C'est pas très rassurant, évidemment, d'entendre ce que vous dites. Je voulais que vous me disiez un mot, monsieur le ministre, sur votre parti, hein, qu'on connaît pas beaucoup, pour l'instant, en tout cas, le Parti Sénégalais Uni pour le Développement. Le sigle, d'ailleurs, ça fait Sud, hein. Je sais que vous êtes très attaché à la coopération Sud-Sud. Et bien, dans une interview que vous avez accordée en février dernier au journal Le Soleil, vous aviez indiqué dans cette interview que votre parti, qui n'appartient ni à la majorité présidentielle, ni à l'opposition traditionnelle, cet indice radical, avait pour objectif de tracer sa voie dans le centrisme. Je voulais que vous nous disiez, Monsieur Guirassy, que signifie être au centre aujourd'hui dans le contexte sénégalais?
Être au centre dans le contexte sénégalais, je dirais même dans le contexte africain, c'est être dans une position beaucoup plus difficile où, bien sûr, il faut le progrès, il faut le marché, l'économie de marché, mais en même temps, il faut s'appuyer de plus en plus sur son socle de valeur, sur ce que j'appelle donc cette africanité-là, qui manque dans nos décisions politiques, qui manque lorsque nous parlons donc de politique publique. On ne sent pas cette authenticité, cette part-là qui revient en fait à ce que nous sommes. Or, lorsqu'on décline sa politique publique, par exemple, dans le domaine de l'éducation, et si on n'a pas une feuille de route, si on ne sait pas où l'on va, d'où l'on vient, qui on est, ben naturellement, ben c'est la crise ou les crises que nous sommes en train de vivre dans nos pays. Donc, énormément d'investissements, énormément de bâtiments construits, d'universités nouvelles, mais en réalité, les étudiants se cherchent, les entreprises se cherchent, on n'arrive pas à créer donc ce capital-là humain qui doit porter, accompagner la transformation de l'Afrique et du Sénégal. Donc, il y a un complexe qui fait que, à tout point de vue, par rapport à nos politiques, nous ne sommes pas nous-mêmes. Donc, il s'agit aujourd'hui d'être au centre, bien sûr, donc cette volonté d'ouverture, de progrès, mais en même temps, cet ancrage très fort dans ce que nous sommes et cet équilibre-là que beaucoup d'hommes politiques ont toujours refusé de porter parce que c'est pas toujours aisé de porter donc ou de défendre des positions très africaines, des positions très locales. Ben, il est plus simple d'accompagner les positions des institutions internationales, des partenaires internationaux, et on voit en fait de plus en plus que ça pose problème. Donc c'est pas Sud qu'il faut dire, il faut plutôt prononcer SUD. Donc
d'accord.
Sénégalais Unis pour le Développement. Bien sûr, il y a certains qui veulent bien y voir donc le Sud. Oui, je ne dirais pas non, parce que justement,
parce que vous en parlez souvent.
De façon indirecte. Oui, de façon très subliminale, j'aimerais bien faire référence à aux nouvelles alternatives, à une nouvelle façon de faire, donner la place à cette africanité, donner la place à, en fait à ces possibilités nouvelles et que l'Afrique est aujourd'hui le seul continent à voir et nous devons positivement contribuer au développement, à l'essor donc de l'humanité et encore une fois nous appuyer de plus en plus sur ce que nous sommes, sur nos ressources naturellement naturelles. Mais sur aussi notre façon de voir le monde.
Il y a quelques mois, justement, toujours en février dernier, vous aviez indiqué que vous appliquiez à conclure des alliances fortes et cohérentes, je vous cite, avec d'autres leaders politiques en vue de cette présidentielle de 2019 à laquelle vous êtes candidat. Où en êtes-vous de ces alliances aujourd'hui ?
La première des alliances, c'est notre implication très forte dans ce que nous appelons aujourd'hui au Sénégal le Front National de Résistance de l'Opposition, qui compte plus de 50 et quelques membres de l'opposition. Là, c'est pas une coalition politique, c'est une coalition électorale pour accompagner, encadrer le processus électoral, nous battre ensemble par rapport à ce qui nous lie. Aujourd'hui, au cœur du débat, au cœur de nos préoccupations, se trouve être la question de l'audit du fichier, la question donc la transparence, la question du parrainage. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en train de démultiplier nos actions pour arriver donc à des résultats rassurants. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est maintenant les coalitions politiques. Et nous avons un cadre de discussion avec certains candidats. Et on a voulu être un peu plus sage. Parce que généralement, les coalitions, donc, on y va de façon très spontanée, avec de grandes déclarations. Et en avançant, c'est l'effritement, c'est l'éclatement. Et ça décrédibilise donc les coalitions. Au sein de ce cadre de concertation, comme nous l'appelons pour l'instant, nous avons voulu être plus sages en disant « allons-y ». Avec déjà cette volonté donc de faire les choses ensemble, l'affectio societatis comme on dit ou comme les juristes disent, et après la deuxième étape, arriver à un moment où il y a peut-être des barrières naturelles, certains qui seront recalés parce qu'ils n'auront pas le nombre de parrainages requis, certains pour des raisons financières, certains pour d'autres raisons, mais qu'on s'engage à rester ensemble et à épauler donc le mieux placé d'entre nous. Donc il y a ces discussions là qui évoluent et pour rester donc cohérent.
Donc il y a une possibilité d'aller pour l'opposition à ces élections en rang serré.
Ah oui, absolument, nous n'aurons pas le choix. Mais aujourd'hui,
parce que l'opposition sénégalaise aujourd'hui n'a pas de leader.
Non, non, il ne faut surtout pas chercher de leader, ce n'est pas une bonne stratégie. Quand on parle d'élection présidentielle, il faut permettre à chaque candidat d'aller, de donner le meilleur de lui-même. Donner le meilleur de lui-même, c'est en tant qu'entité, s'il a une partie, un mouvement, de porter la chose, de parler à ses militants, de mettre en avant son programme, de mettre en avant ses propres
sources.
Donc vous
êtes d'accord, vous êtes tout à fait d'accord, vous serez tout à fait d'accord qu'on retrouve une présidentielle avec 80 candidats, si évidemment toutes ces intentions finissent par devenir des candidats.
Non, laissez-moi terminer. C'est-à-dire que chacun de nous va donner le meilleur de lui-même. Et maintenant, il y a des barrières naturelles. Et après, des exigences qui feront, par exemple, après l'étape de du parrainage, que certains éliminés puissent se retrouver et donc donner leur voix, apporter leur soutien à quelqu'un d'autre. Mais au préalable, l'avantage de cette démarche-là, c'est que chacun de nous donnerait le maximum et la somme donc de tout cela donnerait en fait plus de poids et plus de possibilités aux candidats qui seraient donc mis en avant. Mais si dès le départ, tout le monde croisait les bras pour mettre en avant un seul candidat, voyez-vous bien, il y a certains par rapport aux ressources qu'ils ont, ben, ils ne donneraient pas le maximum d'eux-mêmes. Et par rapport au discours ou à l'engagement, ils ne donneraient pas le meilleur d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, c'est en toute lucidité. Et une élection présidentielle est différente d'une élection locale, une élection législative. Et la meilleure des choses à faire, c'est ce que nous sommes en train de faire là en ce moment.
C'est pour ça, d'accord. Maintenant, je peux vous poser la question. Vous avez fini d'expliquer. Je disais, donc, vous ne voyez donc aucun inconvénient à ce que, à la date de clôture des candidatures, si toutes ces personnes réussissent à avoir des parrainages, puissent être candidates, c'est-à-dire les 80.
Ben, si c'est comme cela que c'est organisé, oui, naturellement. Naturellement, ce serait dommage. Et encore
est-ce
une fois...
Est-ce que vous ne risquez pas d'embrouiller un tout petit peu l'électeur? L'électeur ne risque-t-il pas de se perdre? Il aura du mal à départager tout ce beau monde.
Mais très bien. Là, c'est la bonne question, justement, pour revenir sur l'idiotie et la bêtise du gouvernement sénégalais. En mettant en avant cette loi-là, elle n'est pas du tout intelligente si on cherchait à rationaliser. Il y a des lois qui étaient là, qui permettaient de rationaliser les partis politiques, de rationaliser tout cela. Depuis des décennies, on a ces lois. Donc il y a le contrôle sur le fonctionnement des partis politiques. Il suffisait simplement de mettre en avant ces lois-là pour justement rationaliser. On n'avait pas besoin de mettre cette contrainte ou soi-disant contrainte.
Mais est-ce que ce n'est pas cette confusion qui s'installe finalement, qui fait dire au président Macky Sall, le président sortant, qu'il va gagner l'élection dès le premier tour?
Mais vous êtes très intelligent, vous êtes des communicants. Si déjà son premier ministre annonce qu'ils ne seront pas plus de 5 à être candidats, ben effectivement, c'est justement leur logique. C'était de mettre en prison certains et d'évoluer tranquillement et puis arriver après à dire que ben nous avons éliminé les 80 ou les 75 et puis bon, voilà, nous n'avons que 5. Et les 5, ils vont aussi choisir qui feront face donc à Macky Sall. Donc voilà le jeu. Macky Sall aujourd'hui, c'est exactement que le Sénégal lui a tourné le dos. On sait ce qui se passe dans les grandes capitales. Vous avez donc les résultats des locales, les résultats des législatives dans les grandes villes comme Dakar. On sait aussi les résultats dans une grande ville comme Djourbel, Touba. Et si la tendance se maintient, et la tendance ne peut que se maintenir, des résultats de la présidentielle, on évolue vers les référendums, il y a une chute, en passant du référendum vers les législatives, il y a une chute et naturellement, la tendance donc se maintiendra. Donc, il y aura une chute et Macky Sall ne peut pas passer au premier tour. Donc, aujourd'hui, c'est de choisir
donc,
ses adversaires.
Il sera qualifié au moins pour le second.
Pardon ?
Il sera qualifié pour le second.
Oui, bon, il y a de fortes chances qu'il soit qualifié donc pour le second tour, mais en étant qualifié pour le second tour, impossible de passer, impossible de passer donc...
Excusez-moi, monsieur Guirassy, vous êtes en train de dire que oui, il ne peut pas passer au second tour.
On va devoir marquer une pause dans quelques instants, Liliane. Allez-y.
Tout à fait. On voit que Beno Mbok Yakar, la coalition de la majorité au pouvoir, est assez soudée, elle est réunie. Ce n'est pas le cas de l'opposition. Comment pouvez-vous dire que le président Macky Sall ne peut pas être réélu?
Parce que les calculs sont très simples. Aujourd'hui, le président Macky Sall, quand il présentera aux Sénégalais 1 million de parrainages, au lieu d'en présenter 65, ce qui est illégal déjà, d'ailleurs, parce que lui, le premier à défendre, qui devait défendre la loi, notre constitution, si lui, il demande à ses responsables de lui amener 1 million de parrains, alors que la loi dit que vous ne pouvez pas dépasser les 65 000, je dis déjà, c'est une faute lourde. Alors, soit,
Donc, on amène 1 million de parrains, c'est le maximum. Parce qu'aujourd'hui, il a mobilisé et ses directeurs généraux, et ses députés, et ses ministres pour apporter le maximum. Or, ce maximum-là de 1 million, ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont peur, excusez-moi, c'est important, parce qu'ils ont peur, ils vont signer les parrainages, parce que là, on vient vous voir directement. Mais lorsqu'il s'agira de voter, donc dans le secret des dieux, dans l'urne, en ce moment, vous verrez que les 1 million qui ont été présentés, ces 1 million-là ne voteront pas pour Macky Sall.
Merci beaucoup, on va marquer une pause obligatoire.
Le débat, BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Le débat, Liliane Niacha et Francis Laloupo.
Et en duplex à Dakar et Paris, notre grand témoin invité dans cette édition dans les studios BBC Afrique à Dakar, Moustapha Bamba Guirassy, ancien ministre du Sénégal, président du Parti Sénégalaise Uni pour le Développement, candidat à la présidentielle de 2019 au Sénégal. Notre confrère invité dans cette édition, au téléphone depuis Libreville, Guy-Pierre Bitégué, directeur de la publication du journal Le Mandia et président de l'organisation patronale des médias, l'OPAM. Alors, Cap Sud Dakar à nouveau, on va laisser le ministre aller jusqu'au bout de son exposé.
Conclure ensuite, on donnera la parole à Guy-Pierre. Allez-y, pour conclure, vous disiez que dans les 1 million de parrainages que pourrait avoir le parti au pouvoir, le candidat Macky Sall ne signifie pas automatiquement vote dans les urnes.
Oui, c'est-à-dire que déjà, il est en train de donner le maximum pour prouver en fait, parce que toute la tactique, c'est de dire « je passerai au premier tour ». Donc, aujourd'hui, toute l'administration est mobilisée. Une bonne partie de l'administration décentralisée, donc dans les départements, les régions. Tous ces députés, tous ces lieutenants sont mobilisés pour montrer aux Sénégalais qu'il peut passer au premier tour. Ok, ça sont les parrainages, il faut venir, donc c'est pas dans un bureau de vote, donc on peut parrainer. Et ça fera peut-être 1 million et quelques. Mais ces 1 million de parrains ne voteront pas forcément pour Macky Sall. Alors que si l'opposition donne son maximum, c'est peut-être 30% ou 40% qu'on verra, parce qu'ils n'ont peut-être pas tous les moyens, ils n'ont pas l'administration donc à son service. Et voilà pourquoi Macky va avoir une difficulté extraordinaire. On connaît le nombre d'électeurs, on sait qu'il ne peut pas passer, il va donner donc le maximum, et ce sera connu de tous. Et forcément, il ne peut pas dépasser là. Et les statistiques sont là. Et aussi, les politiques sont là. Les résultats sont là. L'insatisfaction est là. Chaque fois que Macky Sall se déplace à l'étranger, on voit en fait les difficultés. Il ne peut plus, il n'ose même plus. À l'étranger, dans une capitale où les gens sont libres et puis donc certaines libertés sont protégées et sauvegardées, chaque fois qu'il se déplace, il a un problème avec les citoyens sénégalais. C'est ici, simplement à Dakar, qu'on peut encore faire semblant parce qu'on a les mégas d'État donc à son service, donc il peut commander et commanditer les choses, mais la réalité est là. Le peuple sénégalais...
Il y a également les médias privés qu'on peut dire être favorables à l'opposition.
Donc... Oui, mais aujourd'hui non, c'est un point important. Aujourd'hui, ceux-là qui portaient la presse et qui étaient là, les défenseurs donc des citoyens sénégalais, il y a bon nombre parmi eux qui sont dans le staff de Macky Sall, de grands journalistes qui se sont tués aujourd'hui, de grands propriétaires de médias qui sont avec lui. Donc, ne me dites pas...
Vous visez certainement Youssou N'Dour.
Je ne donne pas de nom, Non, il y a énormément d'organes, aujourd'hui qui sont proches du régime et dans son staff. Donc, aujourd'hui, il y a un problème sérieux de corruption et de transparence dans le système.
Francis, avec notre confrère, qu'on n'a pas entendu...
Bon, il va nous faire un commentaire général sur ce qu'il a entendu, sur ce contexte préélectoral, il faut le dire, au Sénégal, Guy-Pierre Bitégué.
Oui.
Quelle réflexion vous inspire ce contexte préélectoral au Sénégal? Vous avez écouté les réponses de notre grand témoin invité.
Oui, j'ai écouté le témoignage du ministre à qui je souhaite déjà bonne chance. Mais je crois que tout combat, lorsqu'on y va pour gagner, la logique voudrait qu'il ne dise pas qu'il sera battu. C'était le contraire. En fait, il a dit qu'il me surprendrait. Sauf que l'expérience a montré que dans nos démocraties, en Afrique noire, le pouvoir en place n'organise pas une élection pour la perdre. Et je crois que dans le fonctionnement de Macky Sall,
certains au Sénégal ont déjà organisé et perdu. Hein. Ça, c'est déjà vu dans l'histoire du Sénégal. L'histoire récente.
Oui, le président Diouf, Abdoulaye Wade, et même récemment en Afrique subsaharienne, et même récemment à Madagascar, Radio Rimampian a bien perdu l'élection, Guy-Pierre.
Oui, Oui, il y a des exceptions. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Je dis bien, il y a qui préparent les élections pour les gagner. Voilà. Mais sauf si le problème, s'il y a des pressions, comme on le voit en ce moment à République démocratique du Congo, c'est autre chose. Mais lorsque vous prenez les exemples, là je parle en tant qu'Africain, des exemples de chez nous au Gabon, des exemples de ce qu'on voit au Sénégal où des candidats influents sont éliminés, les autres intimidés, le pouvoir, en fait, si vous voulez, au Sénégal ne prépare pas une élection qu'il devrait perdre. Et ils se donnent tous les moyens, comme on dit au Gabon, de les gagner comme au tiers, c'est-à-dire dans l'ordre ou dans le désordre. Merci. Maintenant, il s'agit pour l'opposition, comme dit le ministre tout à l'heure, de s'organiser pour faire en sorte que les plans du pouvoir sont contre-pères. Vous savez très bien qu'il y a un pouvoir en place, lorsqu'il va à une élection, va à un certain nombre de dispositions. Il a avec lui l'administration centrale, il a avec lui les forces de l'ordre, il a avec lui les caisses d'État. Donc autant d'éléments qui font en sorte que le pouvoir en place va déjà avec une longueur d'avance vis-à-vis des autres candidats.
Une longueur d'avance illégale.
Dans les démocraties qui sont les nôtres.
Une longueur d'avance illégale.
Merci Guy Pierre. Il nous reste deux minutes sur le sujet. On va conclure avec le ministre Francis.
Oui, on va peut-être évoquer le contexte judiciaire également, les questions judiciaires. Monsieur Grassi, en février dernier, vous aviez indiqué dans une interview que face aux multiples défis que doit relever le pays, la réponse, je vous cite, la réponse de ceux qui détiennent la puissance publique ne peut pas être l'emprisonnement systématique des opposants d'envergure qui laisse penser à une instrumentalisation de la justice. Alors, est-ce que vous estimez définitivement que le régime du président Macky Sall instrumentalise la justice à des fins politiques ?
Là, c'est tout à fait clair. Je maintiens cette position-là. Il n'y a pas eu d'évolution positive. Il y a une instrumentalisation honteuse donc de la justice. On met en prison des candidats parce qu'on a peur de ces candidats. On met en place des procédures, on vote des lois et on va même piétiner la dignité de certaines institutions. Je pense à l'institution parlementaire. Lorsqu'on emprisonne un député, ça s'est jamais vu.
Khalifa Sall,
le mettre en prison, c'est tout simplement inadmissible. Pour un maire qui est maire d'une grande ville, même on aurait même pu le laisser donc tout à fait libre en attendant que le procès donc ait lieu, mais tout de suite on s'est empressé de l'enfermer, de le mettre en prison et après par la suite donc de lever l'immunité parlementaire. Donc c'est vraiment une honte pour la démocratie africaine, une honte pour la démocratie sénégalaise.
Rapidement sur le cas Karim Ouad, je parlais tout à l'heure de l'annonce du comité des droits de l'homme qui estime que la cour de répression d'enrichissement illicite qu'il a condamné à 6 ans de prison n'avait pas bien mené le procès. Ses avocats estiment que pour cela, il doit être libéré. Est-ce que c'est également votre conclusion
absolument.
Après la décision
et puis,
du comité
non seulement notre décision à nous, en tant qu'opposants aux Sénégalais, mais il y a la CEDEAO qui s'est prononcée par rapport à cela, les Nations Unies qui se sont prononcées il n'y a pas longtemps. Et vous avez vu le Sénégal jubiler en disant qu'ils avaient reçu donc une bonne note du Conseil des droits de l'homme. Ben, c'est très bien, mais lorsqu'on respecte autant les Nations Unies, on parle bien de ce Conseil donc des droits de l'homme des Nations Unies, il faudrait bien aussi que les décisions soient respectées. Lorsque, même si c'est un comité consultatif, sont des experts justement indépendants et commis par les Nations Unies qui se prononcent en demandant aux Sénégalais de revenir donc sur ce jugement-là, je pense tout simplement
décisions.
Qu'il faut respecter cela. D'accord. Donc c'est tout simplement pas juste. Alors, le caractère injuste donc de ce qui est en train de se faire et puis l'instrumentalisation de la justice, c'est justement le caractère sélectif de la justice. Lorsqu'il y a des dossiers de corruption avérés, lorsque l'OFNAC, qui a été mise en place par le président de la République, met en avant des dossiers qui concernent la famille ou le frère du président de la République et qu'on mette le coude là-dessus et qu'on le dise, que le président de la République lui-même le dise en disant, si vous savez, vous, les Sénégalais, les dossiers qui sont sur ma table et sur lesquels donc je mets mon coude, il y a un problème. Donc la sélectivité de la justice pose un problème, c'est tout simplement injuste.
D'accord. Et ajoutons, Francis, pour, avant de quitter le sujet, que le mouvement Yanamar est au cœur d'une enquête. Parce que son partenaire financier a perdu son agrément et doit cesser dans ses activités au Sénégal. Merci.
Vous posez que les organisateurs de la société civile, les ONG, accusent le pouvoir sénégalais de tentative de déstabilisation de la société civile et de restriction de l'espace civique.
Absolument, merci. Absolument, absolument. Lorsqu'on en arrive là à 2 mois d'une élection, il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Et dire aussi que le mouvement Yanamar, qui est un mouvement hip-hop, en 2012, justement, entre 2 tours, le président Macky Sall a lui-même fait le déplacement pour rendre visite à ce mouvement-là, au niveau de leur siège, et dire c'est un mouvement hip-hop, c'est un mouvement qui défend donc les intérêts de la jeunesse.
Le mouvement à la pointe de...
Absolument. Si aujourd'hui, c'est le même président qui revient à 2 mois d'une élection, pour dire ben, que le mouvement-là, ce n'est pas un mouvement sain, ce n'est pas un mouvement décent, et justement combattre les ONG qui ne font que défendre les libertés publiques et collectives, il y a un problème, et c'est tout simplement la confirmation qu'on tente de confisquer donc, le pouvoir et confisquer les élections.
Et que l'espace politique se rétrécit. L'espace
absolument, des libertés publiques,
d'après
absolument.
L'opposition, liberté. En tout cas.
Ben, vous le constatez vous-même, s'il vous plaît. Ben,
d'après l'opposition, il y a une partie de la société civile.
Absolument.
Le débat, BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Avec notre grand témoin invité dans la suite de BBC Afrique à Dakar, Moustapha Bamba Guirassy, ancien ministre pardon, du Sénégal, président du Parti Sénégalaise Unie pour le Développement, candidat à la présidentielle au Sénégal, présidentielle de 2019. Notre conférencier invité dans cette édition au téléphone depuis Libreville, Guy-Pierre Bitégué, directeur de la publication du journal Le Mbandia et président de l'organisation patronale des médias L'OPAM. Nous allons justement aller au Gabon à présent pour parler du flou constitutionnel. Alors que l'absence du président gabonais Ali Bongo Ondimba se prolonge et que les opposants en appellent à une officialisation de la vacance du pouvoir, la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Marie-Madeleine Mboranso, a fait part à la presse le 14 novembre dernier de la décision de la Cour de modifier l'article 13 de la loi fondamentale en y ajoutant un alinéa. Le nouveau texte qui introduit la notion d'indisponibilité temporaire du chef de l'État indique donc que, je cite, hein, « en cas d'indisponibilité temporaire du président, certaines fonctions peuvent être exercées selon le cas soit par le vice-président de la République, soit par le Premier ministre sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle ». Fin de citation. Alors cette initiative qui a pris de court l'opinion publique gabonaise a été qualifiée de coup d'État constitutionnel par l'opposition qui réclame toujours la transparence sur l'état de santé du président absent, le président Ali Bongo Ondimba. Première question pour vous, Guy-Pierre Bitégué, bien entendu, puisque vous êtes présent à Libreville, vous êtes à Libreville. Le nouveau texte indique bien que les fonctions aujourd'hui confiées au vice-président et au Premier ministre sont exécutées sur autorisation de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut en conclure, là, aujourd'hui, en tout cas, que c'est bien cette Cour constitutionnelle qui dirige actuellement l'État en l'absence du chef de l'État ?
Là, on ne vous le fait pas dire, cher confrère, parce que le texte sur la décision de la Cour dit bien qu'il faut l'autorisation. Donc on est rentré dans un régime d'autorisation. Le gouvernement, la présidence de la République, le peuple, les institutions ne peuvent pas fonctionner aujourd'hui sans autorisation de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que même pour convoquer le Conseil des ministres, il faut que la Cour donne son autorisation. De fait, le président de la Cour constitutionnelle est devenu le président de la République, oui.
Et donc, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en principe, en cas de vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. On aurait pu comprendre que la le principe de disponibilité... Allez-y.
La loi dit effectivement qu'en cas de vacances du président de la République, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim.
C'est ça.
Or, malheureusement, dans l'appellement de la Cour, lorsqu'on écoute son président s'expliquer, pour eux, la vacance veut dire la mort. On n'a jamais dit, sauf si on ne comprend pas le même français, la vacance ne veut pas dire la mort. Dès que vous êtes là, vous êtes, votre siège est vacant. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes votre siège est vacant. Donc on ne peut pas dire que l'absence du président de la République, pour quelque cause que ce soit, signifie la mort. Si le président n'est pas là pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, son siège est vacant, et à ce moment-là, le président du Sénat doit assurer l'intérim, on peut dire temporaire, au retour du président. L'intérim, c'est le président en place reprend ses fonctions, tout simplement.
Liliane.
L'article 13, donc, qui le dit, qu'en cas de vacance de pouvoir, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim et organise les élections au bout de 60 jours, élections auxquelles la présidente du Sénat ne doit pas participer. Mais en même temps, Guy-Pierre Bitégué, il me semble que dans la Constitution, il n'est pas tout à fait prévu à quel moment il faut constater la vacance du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas cela la difficulté qui a fait peut-être entrer en scène la Cour constitutionnelle ?
Non, je crois qu'il n'y a pas de difficulté à ce niveau. C'est effectivement les juristes sur le plan local de nous entrer dans ce piège. Vous venez de apporter la réponse à votre propos. On posera peut-être la question à d'autres juristes. On dit bien, le président du Sénat organise les élections dans les 60 jours qui suivent. Cela veut dire autrement
que si pendant 60 jours, le président de la République n'est pas là, on peut quand même constater la vacance.
D'accord.
C'est ça. Si pendant...
Ce qui signifie d'après vous qu'au bout de 60 jours, c'est-à-dire à partir du 24 octobre dernier, date à laquelle le président était hospitalisé, 60 jours plus tard, si on ne constate pas le retour du président, la Cour constitutionnelle devrait acter la vacance du pouvoir et nommer la présidente par intérim, qui est donc la présidente du Sénat.
Tout à fait.
D'accord. Mais est-ce que vous faites un lien, vous, entre l'acte de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire celui d'avoir ajouté un alinéa à l'article 13 dont parlait Francis, et la décision de la Cour de l'Union africaine qui annonce qu'elle va envoyer une mission d'information à Libreville et surtout qui réaffirme son attachement à la Constitution. Est-ce que pour vous, cela, vous faites un lien? Est-ce que cela pour vous signifie peut-être que l'Union africaine a fait cette déclaration parce que la Constitution a été violée?
Je crois qu'en partie, c'est cela. Mais je crois que le fond, c'est celui que les autorités refusent. Vous et moi, nous pouvons tomber malades à n'importe quel moment. Et lorsque nous tombons malades, nos enfants, nos parents viennent nous rendre visite à l'hôpital. La maladie, personne ne l'achète. Ce que le peuple demande aux autorités, c'est qu'il y ait une délégation qui part au niveau de rien faire exactement pour savoir si le chef de l'État est bien vivant, si d'ici là, il peut reprendre ses fonctions. C'est-à-dire que s'il va recouvrir rapidement la santé, et on gagnerait à temps. On fera bien le clapet à ceux qui appellent à l'intérim, puisqu'on constaterait que le chef de l'État non seulement est vivant et qu'il peut reprendre ses fonctions d'ici là.
D'accord, oui, vous parlez de la preuve de vie du président, mais ma question était celle de savoir, est-ce qu'il y a un lien, selon vous, entre l'Union, le communiqué de l'Union africaine qui dit son attachement, qui réaffirme son attachement au respect de l'ordre la Cour constitutionnelle a fait.
Je vous ai répondu qu'il y avait effectivement un lien, je sais que je disais en commençant mon propos, qu'il y avait un lien, mais qu'on pouvait sauter ce lien si on avait la preuve, je vous dis, si on avait la preuve que le chef de l'État était vivant. Oui. Mais il y a effectivement un lien, oui.
Il y a un flou, de toute façon.
Moustapha Mamba Garassi,
alors c'est une situation particulière parce que la présidente de la Cour constitutionnelle indique que cette disposition est prise de manière temporaire parce que la Constitution ne prévoyait pas un cas d'indisponibilité temporaire du chef de l'État. Est-ce qu'on peut apporter une modification à titre temporaire à un texte constitutionnel, selon vous?
Je crois qu'il y a une cacophonie lexicale depuis quelque temps et M. Bitigui est longuement revenu là-dessus. Tantôt on parle de mort, tantôt on parle de vacances définitives, tantôt on parle d'indisponibilité temporaire. Je pense que tout cela est bien entretenu et bien orchestré. Mais la réalité, c'est qu'il faut respecter le peuple et la vérité, c'est que la Constitution, le peuple est souverain. Et vous savez, bien sûr, on parle du cas du Gabon, mais il faut regretter qu'en Afrique, lorsqu'on parle de palu et qui est le facteur majeur de mortalité, c'est que nos démocraties, nos pays, nos nations meurent aussi par cette pathologie constitutionnelle. Et ce tripatouillage, lorsqu'on permet à un président de constitution, à lui tout seul, de pouvoir modifier librement une constitution, je pense tout simplement que c'est pas une bonne avancée, c'est pas un bon signe.
Est-ce que ce flou constitutionnel peut se prolonger indéfiniment au Gabon? Selon vous.
Mais je pense que c'est dangereux parce que en fait il y a un engrenage. Il y a aujourd'hui, lorsqu'on permet au vice-président de diriger un conseil des ministres, il y a des décrets qui sont signés. Est-ce que il a les habiletés, les compétences
justement,
qu'il faut?
Justement, qu'en est-il des autres compétences?
Des autres compétences.
Donc, président de la République.
Voilà, donc on s'installe dans une situation.
On ne sait pas quand il reviendra.
Absolument, on s'installe dans une situation quand même assez difficile et confuse. Et voilà, la légitimité, la légalité, donc de tout cela. À terme, on ne sait pas où ça peut conduire donc le peuple gabonais. Encore une fois, je suis d'accord tout à fait avec la société civile gabonaise et puis avec le peuple gabonais pour dire que c'est un coup d'État constitutionnel et qu'un président d'une cour constitutionnelle n'a nullement le droit de rajouter un alinéa. Il y a deux voies, soit par le Parlement, soit par référendum.
Mais en même temps, parlant de la présidente de la Cour constitutionnelle au Gabon, on connaît ses liens familiaux avec le président Ali Bongo, est-ce qu'elle a encore la légitimité, la crédibilité dans le contexte actuel où le président est malade, disons, pour trancher objectivement un débat sur la Constitution?
Il faut préciser qu'elle est en place depuis 28 ans quand même à ce poste. Hein.
Oui.
28 ans, et on se souvient aussi les dernières élections
de
passées.
De 2009 et de 2016 aussi.
De 2016, elle a été vraiment très fortement critiquée, remise en cause et en question. Aujourd'hui, que cela se passe, on a l'impression qu'il y a un clan, qu'il y a un régime qui
ça,
est protégé.
Je parle de ses rapports familiaux.
Oui, mais
avec,
c'est tout cela. C'est ouais. que c'est toujours elle qui revient, en fait, pour encadrer et protéger. Parce que, bon, voilà, en mettant en avant le fait qu'elle soit présidente donc de cette cour constitutionnelle là. Donc justement parce qu'il y a ces liens avec cette famille là, je pense que elle ne devait pas aujourd'hui prendre une telle décision. Elle devait passer par le Parlement ou organiser donc un référendum. Et aussi, je crois que Monsieur Bitiguier l'a dit, la Constitution est assez claire. Il ne faut pas rajouter à quelque chose de clair, quelque chose de voilà, on s'enfonce davantage. L'article 13, les dispositions donc la Constitution, surtout par rapport à l'article 13, tout était clair et suffisant pour permettre justement au Gabon de s'en sortir. Il ne faut pas avoir peur parfois du désordre ou de la déconstruction pour aller vers quelque chose de plus stable. C'est la voie et c'est le chemin. Maintenant,
en même temps, M. Guirassy, il y a quand même certains constitutionnalistes que nous avons eus sur la BBC qui affirment que cette décision de la Cour constitutionnelle visait quand même à sortir des turbulences institutionnelles dans lesquelles le pays était engagé et que la Cour constitutionnelle, face à une lacune et un doute, avait l'obligation d'agir dans l'urgence.
Justement, donc, c'est là le danger.
La Cour constitutionnelle n'a peut-être pas eu tout à fait tort.
Non, ils ont complètement tort. Parce que quand on a peur des moments de déconstruction et de désordre, c'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, naturellement, ce n'est pas une situation normale. Ben, bien sûr, il y a une période de transition, il y a les 100 jours, il y a à organiser, il y a certains qui vont perdre le pouvoir. Mais refuser cela ou avoir peur de cela et tout de suite vouloir se remettre donc dans une situation d'immobilisme, c'est ça le danger. Merci. Donc vous savez, le changement, avoir peur du changement, c'est ça qui tue aussi nos démocraties et c'est ça qui ne permet pas d'aller de l'avant.
Est-ce que vous voulez dire, monsieur le ministre, que cette décision a été prise non pas pour protéger des intérêts nationaux, mais le territoire d'un clan au pouvoir? C'est ce que vous voulez dire?
Ah non, visiblement, c'est le territoire d'un clan, mais c'est forcément pas pour respecter donc la Constitution. Ce n'est pas du tout pour permettre au peuple gabonais de façon souveraine de prendre les bonnes décisions, parce que tout était clair. Et bon, là, on rajoute à la confusion. Mais franchement, vous savez, l'erreur de beaucoup de dirigeants dans le privé comme dans le public, c'est le rapport au changement. Refuser en fait le changement, l'innovation, et toujours camper les choses dans une stabilité, c'est contrairement au principe de fonctionnement de l'univers. Donc, il faut que ça bouge, quoi. Voilà. Il faut l'alternance.
Merci
et
beaucoup.
Vouloir le figer, ben, c'est justement contraire donc au principe démocratique.
Francis, si vous permettez, je pose une question rapide à Guy Pierre avant qu'on ne passe au dernier sujet. Alors, Guy Pierre, l'Union africaine veut donc envoyer une mission d'écoute d'information à Libreville, on ne sait pas encore quand. Comment la classe politique accueille-t-elle cette annonce, sachant que l'Union africaine elle peut être considérée comme pas du tout neutre, puisque Jean Ping ayant été président de la commission?
Disons que le pouvoir en place reçoit la décision de manière assez mitigée, alors que l'opposition, la société civile, la police de demain.
Mais est-ce que l'Union africaine peut être neutre dans son jugement de la situation politique au Gabon? Au regard de ce que je venais de dire, avec Jean-Pierre qui a été président de la commission.
Oui, vous savez également très bien que l'Union africaine a eu une position assez timorée lors de la dernière élection présidentielle, qui faut quand même tout le rappeler, a été remportée par Jean-Pierre.
Selon
l'Union européenne, et le résultat que nous savons tous, la mission d'observation de l'Union européenne a bien dit que Jean-Pierre a gagné cette élection. Donc ce n'est pas moi, l'Union européenne. Bref, disons que c'est de l'histoire. Mais disons qu'aujourd'hui, on estime que si l'Union africaine, par l'ensemble des éléments, entre elle et la Constitution de la République gabonaise, elle devra théoriquement dire le droit et dire ce que dit la Constitution.
Merci.
Et non.
Merci beaucoup des considérations.
Liliane, il faut quand même demander à Guy Bitenge quel est le climat aujourd'hui dans le pays face à cette situation. C'est bon qu'il nous dise ça en quelques secondes quand même, parce qu'il y a eu des manifestations ce jeudi, notamment à Libreville. Guy Bitenge.
Alors, à ce moment, l'opposition tient un meeting à Rio. Les forces de l'ordre n'ont pas encore changé, mais il y a quand même la présence des forces de l'ordre. débat est assez autrement à Libreville. On ne sait pas ce qu'on va faire les prochains jours. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la couleur est quand même assez haute.
Merci beaucoup. Sans transition, le dernier sujet, malgré la réticence, voire l'opposition de certains pays, la réforme de l'Union africaine a été adoptée le dimanche 18 novembre à l'issue du 11e sommet extraordinaire à son siège à Addis Abeba en Éthiopie. Revenons sur les points essentiels de ces réformes avec celui qui a piloté la commission, l'ancien ministre camerounais des Affaires extérieures, des Relations extérieures, Pierre Moukoko Mbondjo, qui est également chef de la cellule de mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, au micro BBC Afrique de Djibril Fofana.
Les chefs d'État et de gouvernement ont pris des décisions très importantes concernant la réforme de la Commission de l'Union africaine, la division du travail entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les États membres, la transformation de l'agence UNEPAD en agence de développement de l'Union africaine et la question liée au renforcement du régime des sanctions à l'encontre des États membres qui ne payent pas leurs contributions à temps et à date.
L'une des réformes phares concerne le financement de l'organisation avec le prélèvement d'une taxe de 0,2% sur les importations. Mais ce mécanisme peine à être effectif.
24 États membres mettent effectivement en œuvre cette taxe de 0,2%. À ce jour, la dépendance de l'Union africaine en matière de budget, de fonctionnement et des programmes, qui était en 2016 de 60%, a été divisé de moitié et est tombé de 30%.
Pierre Moukoko Mbondjo. Alors, monsieur le ministre Guirassy, ces réformes ont donc été adoptées. La grande bataille maintenant, c'est de pouvoir mettre en application ces réformes et ce n'est pas garanti. D'autant plus que le président d'exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, qui a porté cette bataille, va passer la main en janvier à l'Égyptien Al-Sisi qui n'est pas, semble-t-il, tout à fait porté sur les réformes. Est-ce qu'on ne peut pas s'inquiéter de la mise en application de ces décisions?
Je vais être très sincère, je suis très inquiet parce que Paul Kagame a un leadership avéré. Je pense que pour ces réformes-là, il avait mis en avant déjà certaines conditions. Il fallait le laisser libre pour conduire donc ces réformes. Il avait aussi choisi donc le staff, les personnes qui devaient l'accompagner dans cela, parce qu'il disait justement qu'au sein même de l'Union, peut-être que le problème, c'est parmi donc ces personnes-là qui étaient déjà donc fortement impliquées. Donc cette liberté, ce leadership et cette vision, et on a vu ce qu'il est en train de faire dans son propre pays, pouvait être une garantie en termes de leadership pour transformer et puis conduire donc les réformes. S'il y a changement, je ne connais pas le nouveau très très bien, mais ça me...
Le président égyptien.
Je ne le connais pas très bien, je connais plus cette volonté, cette capacité, ce leadership donc de Paul Kagame, et ça a donné beaucoup d'espoir. Maintenant, comme on dit, wait and see, mais sur la nécessité de porter ces réformes-là, je pense quand même que tous les Africains devraient se mettre d'accord pour dire que soit on réforme, soit on est mort. Et puis bon, finalement, cette crise de crédibilité, absolument, de crédibilité qui pèse donc sur l'Union, elle sera encore beaucoup plus importante.
Francis ?
Oui, crise de crédibilité. Vous l'avez entendu comme nous, que voilà, à peine la moitié des pays membres mettent en œuvre cette taxe sur les importations de 0,2%. Est-ce que vous pensez que l'organisation, à moyen terme, pourrait être en capacité de réduire sa dépendance à l'égard de l'aide extérieure? Parce que c'est quand même cette question qui est au cœur des débats aujourd'hui à l'Union africaine.
Alors, je disais, quand vous me posiez la question, quel était le contenu donc du parti SUD, je mettais beaucoup l'accent sur la dimension valeur. Il faut pas trop mystifier les Africains avec des théories économiques, des plans et des programmes. Il faudrait comprendre qu'au début et à la fin, il y a l'être humain. L'être humain, ce qui le caractérise, c'est essentiellement ses valeurs qu'il porte. C'est des valeurs de courage, de détermination, des valeurs en termes donc de sobriété, de dignité, ainsi de suite. Et une valeur essentielle, c'est la valeur liberté. Et ce qui manque chez nos hommes politiques, les dirigeants, nos gouvernements, dans la mise en œuvre de nos politiques,
politique publique, c'est justement ces dimensions liberté-là. Et c'est là où il y a problème, parce qu'on ne les sent pas tout à fait libres. Et quand on manque de liberté, ben, on n'a peut-être pas le courage de rompre donc les amarres et puis de couper. Sinon, aujourd'hui, franchement, le fait d'avoir cette volonté de s'autofinancer, ça devrait pouvoir être réalisé et très simplement réalisé. Mais c'est encore une fois une question...
D'autant plus qu'en deux ans, le budget de fonctionnement a été soutenu de moitié par l'Union africaine plutôt que par les bailleurs étrangers.
Et absolument, c'est une question de volonté encore une fois. Ça n'a rien à voir avec les questions de finances ou de programme, une question de liberté et de volonté.
Merci.
Encore une fois, c'est la façon de voir le monde, de se voir, de voir son institution. Et vous me permettez simplement de dire que moi-même, quand j'étais ministre des télécommunications, j'ai été surpris et choqué de constater que le point Africa, lorsqu'on parle de point EU, point États-Unis, point org, point com, vous imaginez en 2012, quand j'étais encore donc à la tête de ce ministère-là, au sein de l'Union africaine, on n'avait pas notre point Africa dot Africa. C'est pour dire que en termes de sécurité, de culture, de savoir, nous étions tout simplement dangereusement sur le net, en tout cas très très peu servis. Et le point Africa était contrôlé par les États-Unis et par ICANN. Donc c'est pour dire simplement qu'en termes de souveraineté, en termes de vision, ben ça dort encore au niveau donc de l'Union africaine.
L'exemple est édifiant.
On
n'aura pas le temps d'écouter le message.
Guy, on s'excuse. Non, d'écouter Guy, on s'excuse auprès de notre confrère. Les messages.
Vous privilégiez les messages, donc.
De nos auditeurs, avec Thierry Echambou et Kidina.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sénégal, pensez-vous que l'opposition sénégalaise ait actuellement un poids à même de convaincre la population? C'est la question que pose Charles Bazema à notre grand témoin de ce jour. Et Téli Gomba Bari, de son côté, aimerait savoir si, à part critiquer le président Macky Sall, l'opposition sénégalaise propose autre chose. Et Lavi Koubaka Prosper, pour sa part, pense qu'en Afrique, les leaders politiques ne cherchent qu'à remplir leurs poches et sont loin de viser l'intérêt du peuple. Gabon Sangaré Albert pense que la Cour constitutionnelle se doit d'être neutre. Pour notre auditeur d'Abidjan, le respect de la loi fondamentale contribue à ne pas attiser les tensions dans le pays. Et enfin, sur les réformes au sein de l'Union africaine, Ronnie Patrick Outklissou demande si l'Union africaine a réellement besoin de ces réformes. Et pour Sadi Ali Saniguë, dubitatif, si les dirigeants africains ne respectent pas la constitution de leurs États, combien de fois respecteront-ils les règlements de l'institution panafricaine? Merci à Koné Raoul et Issa Nyan Djibril qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur Facebook à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci Richard,
merci vous, Thierry
Kijina. Il nous reste juste le temps de remercier notre invité, Liliane. On n'a pas le temps, évidemment. Je pense qu'on va retenir la question des valeurs.
Demande, Francis, 15 secondes. Il insiste pour 15 secondes de conclusion. Allez-y, monsieur le ministre.
Très bien.
Ben, l'opposition, bien sûr, est tout à fait crédible, mais aujourd'hui, les changements dans nos États est de plus en plus porté par la société civile, les citoyens de façon générale. On parle de plus en plus de gouvernement citoyen. Et moi, je refuse et j'invite nos concitoyens sénégalais ou africains de ne pas laisser le débat aux politiciens. C'est un débat, lorsqu'on parle de débat sur la conscience, lorsqu'on emprisonne, lorsque les libertés publiques donc sont restreinte, il faudrait tout simplement
ne pas laisser... Mais avez-vous autre chose que de critiquer Macky Sall?
Absolument, absolument. Il y a bien sûr des programmes, et mais par contre, les questions qui sont posées par les journalistes aussi orientent le débat. Aujourd'hui, par exemple, sur ce plateau, il n'a pas été demandé à M. Guirassy, décline déjà ton programme. Ben, l'accent a été mis, en fait, sur des points sensibles, et naturellement, donc ces points-là, généralement, il faut parler du fichier, et puis il faut critiquer.
Moustapha Mamba Guirassy, merci d'avoir été notre invité, votre grand témoin dans cette édition.
Merci beaucoup.
Ancien ministre, président du Parti sénégalais Unis pour le développement, candidat à la présidentielle de 2019 au Sénégal. Merci à notre confrère Guy-Pierre Bitégué, directeur de la publication du journal Le Mandia, président de l'organisation patronale des médias, l'OPAM. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par François Richard, chargé de production Richard Thierry Umbo et Kijina. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à toutes et à tous. Liliane.
Au revoir. Merci Francis. Au revoir.
Merci, au revoir Francis. Au revoir.